très chers auditeurs de Radio Acidule, et en l'occurrence de Résistance en direct, un grand et un dernier bonsoir. En effet, au sommaire, nous voyons une glose ultime sur l'émission et une information sur le test du tétrahydrocannabinol dans l'urine. Un dernier et grand bonsoir, dernier non seulement parce que nous nous acheminons vers la fin de l'année, mais parce que je ne pourrai désormais plus assurer la régularité des émissions de Résistance en direct, pourtant utile à la mise en évidence des crapuleries et des abus de pouvoir quotidiens des institutions de répression, représentées en ce canton par Jean-François Lebas. Notre émission a tout de même duré une année, avec une interruption due à un remaniement de l'agenda des programmes à la fin du mois de septembre. La critique de l'émission par les auditeurs présente plus de remarques positives et encourageantes que de négatives. Le seul avis négatif émanant d'un seul prisonnier du Bois Mermet, qui, pour s'assurer une certaine mansuétude de la part de la direction, s'est laissé manipuler par elle en nous invitant à ne plus parler des actes odieux qui s'y déroulent et des suicides qu'on y provoque astucieusement. Nous sommes néanmoins fort aises de savoir que Mercure s'est montré favorable à ce prisonnier qui s'en est pas trop mal tiré lors de son jugement. Nous remercions évidemment toutes les personnes pour qui cette émission paraît une nécessité, car c'est la seule parmi tous les médias existants en Suisse romande qui ose dénoncer les agissements honteux des instances répressives et citer nommément les plus coupables de ces fonctionnaires. La preuve de la justesse de nos arguments et de nos accusations, nous la trouvons dans l'absence de plainte de la part des personnages concernés. Or, quand on connaît la promptitude et l'acharnement avec lesquels la chienlit des pouvoirs policiers, judiciaires et pénitentiaires porte plainte envers des citoyens qui ne disent que la vérité, ce silence est bien une preuve d'embarras des individus visés. Ils savent bien que mieux vaut éviter les vagues que ne manquerait pas de susciter un procès. Souvenez-vous, chers auditeurs, quand le candidat malchanceux aux élections du Conseil d'État en mars 1983, Jean-Jacques Meyer, avait traité Jean-François Lebas, l'ex-procureur Willeheim et l'ex-syndic de Lausanne de la Murat, de trafiquant de drogue dure. On l'avait jugé pour calomnie. Mais en le faisant passer pour fou, on arrangeait toutes les parties et les eaux du Léman s'apaisaient à nouveau. Consultez, par exemple, le journal 24 heures du 24 janvier 1983 pour vous instruire à ce sujet. On a beaucoup parlé de cette tactique utilisée par les pouvoirs dictatoriaux et les exemples les plus illustres sont les abus de la psychiatrie évoqués dans les pays de l'Est européen et en particulier en Union soviétique. Mais nous avons vu que jamais Lausanne n'aura été aussi proche de Moscou. En tout cas, la Moscou d'avant Gorbatchev. Les procès de Lausanne Bouge, de Jean-François Meyer, de Martial, dit Lombus, et d'autres, le démontrent à satisfaction. Chers auditeurs, la propagande de nos élus, élus à 25%, vous exhorte à croire que tout est transparent, honnête et humain dans notre état de droit. Mais tout état est un état de droit. L'Union soviétique est un état de droit. L'Allemagne hitlérienne était un état de droit. En effet, il y avait des lois et le peuple ne les contestait pas. Seule une minorité de marginaux, comme l'on dirait aujourd'hui, avait l'audace de les critiquer négativement et de s'y opposer. Ils le payèrent de leur vie. Aujourd'hui, sans atteindre encore les excès des régimes cités, on vit ici les mêmes mécanismes de gestion de l'expression des populations. Interdiction de manifester dès qu'un problème émerge de la vision traditionnelle et dite raisonnable des choses. Voyez les violences policières à l'égard de la République de Zafaraya à Berne. Interdiction à un fonctionnaire d'exprimer ses vues politiques et historiques en prétextant le devoir de réserve. On se souvient de l'affaire Pachou, La dame est de droite, certes, mais s'il y avait un fonctionnaire de gauche, combatif, il eût pour d'autres propos, tout généreux qu'ils fussent, subi les mêmes avanies. Interdiction à un étranger de parler politique. Soit, M. Le Pen n'a pas eu droit à la parole en public à Genève. La gauche triomphe, mais qu'elle n'oublie pas qu'une dénégation plus nette encore affectera un orateur de gauche. Et la peur. Parlons de la peur du citoyen. Peur de signer une initiative, un référendum, une pétition. Peur de figurer sur une liste. Pourquoi cette peur? Parce qu'il n'a plus confiance en les structures de son État. Il agit comme s'il était surveillé jour et nuit. Et il l'est, en effet. Alors pourquoi parler de la police dans les pays de l'Est, par exemple, alors que chez nous, les gens crèvent de peur d'aller en prison, de perdre leur travail, leur identité même? C'est ici qu'il faut agir. C'est à nous de surveiller la police, les juges, les directeurs de prison. Les objectifs de la police dépassent largement ce que souhaite le citoyen. La police le déclare formellement dans ses congrès en brandissant le spectre du terrorisme et du dit grand banditisme. Renforcer la surveillance, l'écoute téléphonique, l'armement, l'entraînement. Ils ne cachent pas que le marginalisme est leur cheval de bataille, car ils savent que si les idées nouvelles progressent, que si le citoyen devient conscient de son rôle d'esclave et d'otage de l'État, c'en est fait du régime actuel, où 80% de la richesse nationale est entre les mains de 2% de la population. Chers auditeurs, je l'ai déjà dit plus d'une fois à ce microphone, le flic inquiète et perturbe plus qu'il ne protège. Comme tous les fonctionnaires de la répression, c'est un magnifiquement inutile, un improductif, en un mot, un parasite. De plus, il coûte cher, très cher, de l'ordre de 200 millions de francs par année. Auditeurs, citoyens, il est temps de dire non au crédit d'armement des flics, de construction de nouvelles prisons, d'accroissement des moyens électroniques de surveillance, etc. Non aussi aux dépenses d'armement militaire. Cet argent serait mieux venu dans les caisses des assurances sociales, à l'aide à l'artisanat, à l'individu, à la petite entreprise. Ne perdez jamais de vue que la police est avant tout au service de la banque et de la grande industrie, pour qui l'homme n'est concevable que s'il est rentable. Aujourd'hui, l'homme responsable, autonome, ce qui exclut par conséquent le fonctionnaire, doit s'armer, non seulement de patience et de bonne volonté, mais d'engins capables de préserver son intégrité physique en cas d'intervention terroriste des corps armés de l'État, tueurs patentés. Les lois ont petit à petit privé l'homme libre du choix des armes pour transférer ce potentiel de sauvegarde dans les mains de ceux dont le métier est de surveiller, d'interpeller, de réprimer et de tuer, au nom de la loi, comme si la loi était sacrée. Nous sommes saturés de la glorification de l'État et de ses moyens meurtriers. Les moyens dits d'information, tels que la radio officielle et surtout la télévision, se prêtent, hélas, avec complaisance et générosité à cette exaltation de la violence d'État. On se souvient de la démonstration burlesque et hollywoodienne du corps des tueurs de la gendarmerie genevoise. On attend toujours de la télévision romande une émission toute de lucidité et de profondeur sur l'utilité de la prison, le pourquoi de la récidive, le danger du maintien du casier judiciaire. Ces gens de la télévision sont pleins de bonne volonté, mais eux aussi ont peur. Eux aussi reçoivent des mises en garde du département de la répression. Ils nous l'ont dit. Alors, où est la liberté d'expression? La loi est bafouée par l'autorité qui, pourtant, ne cherche qu'à la sacraliser. Contradiction insupportable pour un être pétri de raison. Je veux rendre ici un chaleureux hommage à Gabriele Tiedemann, héroïne de la résistance armée contre l'étatisme, complice et souteneur du grand capital, des trusts, des multinationales et de l'américanisme. Alors que le mariage est un droit reconnu aux détenus, il n'en a pas été tenu compte dans son cas. Elle devait épouser le journaliste Morgan Thaler. Elle vient d'être transférée en Allemagne sans que ses vœux et droits aient été appliqués. Belle justice, comment te respecter ? Gabriele, tu resteras un exemple pour nous et nos plus jeunes militants qui savent maintenant où demeure la vraie violence. Car c'est dans les institutions que germe la haine et la déshumanisation. Voilà pourquoi je le clame bien haut. Vive l'anarchie!
Puis-je vous dire que vos moustaches me plaisent, surtout quand elles piquent ma bouche. Quant à vos mains, monsieur, c'est plus beau qu'un poème, elles s'accordent au miel comme l'oiseau dans le ciel. Pour vos jambes, c'est pareil, elles me serrent comme j'ai toujours rêvé. Vos yeux, c'est plus que les yeux, c'est... Je ne trouve pas les mots. Merci, cher monsieur, merci d'être passé du côté de chez moi.
Amis auditeurs, restez encore quelques minutes à l'écoute. Je vais adresser un communiqué particulièrement important pour les consommateurs de cannabis. De plus en plus, les adeptes du chanvre qui ont eu maille à partir avec le pouvoir judiciaire sont contraints à des examens d'urine. Or, certains s'avèrent positifs alors qu'il n'y a eu aucune ingestion de Delta 9 tétrahydrocannabinol, principe actif du chanvre. Aussi, un médecin lausannois a demandé au professeur Georges Peters à la faculté de médecine de l'Université de Lausanne un avis éclairé et compétent dont je vous fais ici lecture. Lausanne, 15 décembre 87, mon cher confrère. Merci beaucoup de votre lettre du 11 décembre 87. Je me limiterai dans la suite à répondre à une question que vous m'avez posée et je tâcherai de le faire d'une façon explicite. Le haschich ou marijuana consommé renferme selon la qualité entre 5 et 110 mg par gramme de la préparation fumée. Dans nos régions, le contenu des cigarettes et des cônes varie entre 5 et 15 mg par gramme, c'est-à-dire 5 à 15 mg par cigarette et 10 à 20 mg par cône. La quantité de Delta 9 THC absorbée de la fumée varie entre 25 et 50% de la quantité renfermée dans le matériel fumé. Pour une cigarette, la quantité de Delta 9 THC absorbée peut donc varier entre 1,25 et 7,5 mg. Pour un cône, elle serait quelque peu plus élevée. Le taux sanguin de Delta 9 THC, après consommation comme cigarette ou comme cône, atteint un maximum dans les 7 à 12 minutes après la consommation et retombe généralement à des taux non détectables avec les méthodes actuellement à disposition des laboratoires au bout de 20 à 25 minutes. Peu de Delta 9 THC apparaît dans l'urine. Ce qu'on recherche et détecte dans l'urine est surtout un métabolite du Delta 9 THC qui s'appelle l'acide 11-nor-Delta 9 THC 9 carboxylique. La méthode immunologique utilisée pour détecter ce composé est relativement peu sensible. Elle ne détecte que des concentrations urinaires supérieures à 100 nanogrammes par millilitre, ce qui correspond à 0,1 mg par litre. Il est évident que la concentration de ce métabolite du delta 9 THC dans l'urine ne dépend pas seulement de la quantité ingérée, mais aussi de la dilution urinaire. Prenons le cas de quelqu'un qui n'aurait bu que des quantités normales d'eau et dont le volume urinaire serait d'approximativement 1 ml par minute. Si une telle personne a fumé une quantité suffisante de delta 9 THC pour produire une concentration urinaire de 0,2 mg par litre, elle serait considérée comme positive. si la même personne, ayant consommé la même quantité de delta-9 THC, a en même temps bu assez d'eau sous n'importe quelle forme, par exemple aussi sous forme de boisson alcoolique, pour avoir un volume urinaire de 4 ml par minute, le taux urinaire serait de 50 nanogrammes par millilitre, par conséquent indétectable. Si on veut vraiment employer la concentration urinaire du métabolite du delta-9 THC comme preuve de sa consommation, il faudrait diviser la concentration urinaire trouvée par la concentration urinaire de créatinine, ce qui serait facile à faire, mais ce qui n'est pratiquement jamais fait. La présence de 0,1 mg par litre ou davantage du métabolite du delta-9 THC indique souvent que la personne concernée a fumé du cannabis ou ingéré du cannabis par voie orale dans les 24 heures précédentes. Si la consommation a été relativement importante, la présence peut cependant aussi indiquer que la personne a consommé du cannabis dans les 6 à 10 jours précédant le prélèvement de l'échantillon d'urine. Finalement, si une personne a consommé des quantités relativement importantes de cannabis à un moment donné, et si ensuite elle s'alimente insuffisamment, ce qui conduit à une certaine fonte des graisses du corps, une telle fonte peut faire apparaître des quantités significatives du métabolite du delta-9 THC jusqu'à 30 à 40 jours après l'ingestion. La détection du métabolite du delta-9 THC dans l'urine, c'est-à-dire la présence de taux supérieurs à 0,1 mg par litre d'urine, ne permet pas des conclusions très poussées. En particulier, elle ne permet pas d'affirmer que quelqu'un a consommé du cannabis dans les 24 heures précédentes. Elle ne permet pas non plus, comme le fait couramment la police dans plusieurs cantons, de retirer un permis de conduire pour 2 mois lorsque la personne aurait conduit sous l'influence du cannabis. « Je suis convaincu, dit le professeur Peters, que si quelqu'un attaquait en justice un tel retrait de permis, il obtiendrait gain de cause. » Il faut cependant souligner que la présence de quantités détectables du métabolite du delta-9 THC dans l'urine indique qu'à un moment qu'on ne peut pas déterminer, la personne a ingéré ou fumé du cannabis. Le fait d'avoir séjourné dans un endroit clos où d'autres personnes ont fumé du cannabis ne produit en aucun cas des taux détectables. Les fumeurs involontaires, pour les appeler ainsi, pour le cannabis, comme pour le tabac, relèvent plutôt du mythe que des réalités scientifiques. Vous avez tort de dire que personne dans le milieu de la médecine légale ne s'est occupé de cette importante question. Il y a en effet un très grand nombre de travaux publiés, dont le plus grand nombre provient des États-Unis, poursuit le professeur Peters. Pour les implications légales, vous trouvez un article populaire et relativement simple dans ISPA Vision 5, numéro 4, décembre 87, pages 4 à 5. Veuillez croire, mon cher confrère, à mes sentiments les meilleurs. Signé professeur Georges Peters. Chers amis, nous arrivons à la fin de notre émission. Auditeurs, consommateurs de cannabis et vous, avocats, qui les défendez, si vous désirez l'extrait purement scientifique et informatif de cette lettre, vous pourrez l'obtenir en écrivant à ADPS, boîte postale 129 1000 Lausanne 17. Très chers amis, il est maintenant l'heure de nous séparer et de mettre un terme à notre série d'émissions Résistance en direct. Toutefois, si parmi vous quelqu'un se sent l'âme apostolique et veut reprendre l'émission, qu'il s'annonce tout de suite à Radio Acidule, téléphone 20 51 11, ou qu'il écrive à ADPS, boîte postale 129 1000 Lausanne 17. Alors peut-être que Résistance en direct, que nous incinérons ce soir, deviendra Phénix. Amis prisonniers du dedans et du dehors, courage et ténacité pour l'avenir. Et parce que ça va être Noël, jurez-vous de déranger, subvertir, anoblir. Cher monsieur, puis-je vous dire...